Chapitre 8. Mardi 8 décembre, fin de matinée. Eric traverse les couloirs de l'hôpital après avoir déposé Benjamin à l'école. Il se trouve stupide d'avoir fait des commentaires sur le tatouage d'Aïda. Il a juste dû leur paraître suffisant et réprobateur. Deux policiers en uniforme le laissent entrer dans le service. Yona Lina attend déjà devant la chambre où se trouve Joseph Eck. Il sourit en apercevant Eric et lui fait un signe semblable à celui que font les petits-enfants en ouvrant et refermant la main. Eric s'arrête à côté de lui et jette un regard sur le patient à travers la vitre de la porte. Une poche de sang presque noire pend au-dessus de lui. Son état s'est un peu stabilisé, mais de nouvelles hémorragies du foie peuvent survenir à tout moment. Il est allongé sur le dos, la bouche fermée. Son ventre se gonfle et se dégonfle rapidement, et des mouvements convulsifs parcourent ses doigts de loin en loin. Un nouveau cathéter a été placé dans l'autre pli du coude. L'infirmière prépare une perfusion de morphine. La vitesse de perfusion a été légèrement réduite.
« J'avais raison lorsque j'ai dit que le malfaiteur avait commencé par le terrain de sport, » dit Yona. « Il a d'abord assassiné le père, Anders Eck. Puis il s'est rendu à la maison où il a tué Lisa, la petite fille, a cru avoir tué le garçon et a enfin tué la mère, Katia. »
« Le pathologiste l'a confirmé ?»«
Ouais. »
« Je vois. »
« Donc, si le malfaiteur a l'intention d'éliminer toute une famille, » poursuit Yona, « il ne reste que la sœur aînée, Evelyn. »
« En supposant qu'il ne sache pas déjà que le garçon est encore en vie. »
« Tout à fait, mais lui, on peut le protéger. »
« Oui. »
« Il faut trouver l'assassin avant qu'il ne soit trop tard. J'ai besoin d'apprendre ce que c'est le garçon. »
« Mais je suis obligé de veiller à l'intérêt du patient. »
« Peut-être que ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est de ne pas perdre sa grande sœur. »
« J'y ai aussi pensé. Je vais évidemment réexaminer le patient, » dit Eric. « Mais je suis quasiment certain que c'est encore prématuré. »«
Bon, »
répond Yona. Daniela entre, vêtue d'un manteau rouge cintré. Elle avance d'un pas rapide, dit qu'elle doit se sauver et remet le dossier du patient à Eric.
« Je pense que bientôt, » explique Eric à Yona, « dans quelques heures seulement, le patient sera suffisamment réveillé pour que nous puissions commencer à lui parler. Mais à partir de là, vous devez comprendre que nous avons un long processus thérapeutique devant nous. Un interrogatoire risquerait d'aggraver son état au point de...
« Eric, peu importe ce que nous pensons, » interrompt Daniela. « Le procureur a déjà décidé que ce sont des circonstances particulières. »
Eric se retourne et regarde Yona d'un air étonné.
« Donc, vous n'avez pas besoin de notre consentement ?»«
Non, »
répond Yona.
« Qu'est-ce que vous attendez ?»«
Je pense que Joseph a déjà souffert plus que personne ne le devrait, » répond Yona. « Je ne vais pas lui infliger quelque chose qui serait susceptible de lui nuire, mais je dois aussi retrouver sa sœur avant que le meurtrier ne la rattrape. Et Joseph a sans doute vu son visage. Si vous ne m'aidez pas à l'interroger, je ferai comme on fait d'habitude, mais je préfère évidemment ce qu'il y a de mieux. »
« C'est-à-dire ?»«
L'hypnose. »
Eric le regarde et réplique ensuite lentement.
« Je n'ai même pas l'autorisation d'hypnotiser. »
« J'ai parlé avec Annika, »
dit Daniela. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demande Eric sans pouvoir retenir un sourire.
« Autoriser qu'un patient instable, mineur qui plus est, soit hypnotisé n'est pas pour plaire à tout le monde, mais dans la mesure où je suis responsable du patient, elle me laisse décider. »
« Je ne souhaite vraiment pas le faire, » dit Eric.
« Pourquoi ?» demande Yona.
« Je n'ai pas l'intention d'en discuter, mais j'ai juré de ne plus jamais hypnotiser. C'était une décision de ma part que j'estime toujours être la bonne. »«
Est-ce la bonne dans cette affaire ?»
demande Yona.
« Honnêtement, je l'ignore. »«
Fais une exception, »
dit Daniela.
« Hypnose alors, » soupire Eric.
« Oui. » Je voudrais que tu fasses un essai dès que tu estimeras que le patient se montre réceptif à l'hypnose,
dit Daniela.
Ce serait bien que tu sois là, dit Eric.
Je prends la décision de la mise sous hypnose, à condition que, à partir de ce moment-là, tu prennes le patient sous ta responsabilité.
Alors je me retrouve seul.
Daniela le regarde, le visage fatigué.
J'ai travaillé toute la nuit. J'avais promis d'accompagner Tindra à l'école. J'affronterai ce conflit ce soir, mais maintenant, il faut vraiment que je rentre dormir.
Eric la regarde descendre le couloir. Son manteau rouge flotte derrière elle. Yuna jette un œil sur le patient. Eric pénètre dans les toilettes, ferme la porte à clé, se rince le visage, attrape quelques serviettes en papier et s'essuie le front et les joues. Il sort son téléphone et appelle Simone, mais personne ne décroche. Il essaie le numéro de la maison, écoute les sonneries, puis la réponse automatique du répondeur. Au signal sonore, il ne sait plus quoi dire.
« Sixan, il faut que tu m'écoutes. Je ne sais pas ce que tu crois, mais il ne s'est rien passé. Tu t'en fous peut-être, mais je te promets que je vais trouver un moyen de te prouver que je suis... »
Eric se tait. Il sait que ses mots ne valent plus rien. Il lui a menti 10 ans plus tôt, et il n'a toujours pas su lui prouver son amour. Pas suffisamment. Pas au point qu'elle lui fasse de nouveau confiance. Il coupe l'appel, sort des toilettes, et rejoint l'inspecteur qui est en train d'observer l'intérieur de la chambre par la vitre de la porte.
« En quoi consiste vraiment l'hypnose ?» demande l'inspecteur au bout d'un moment. « Il s'agit simplement d'un état de conscience modifié, associé à la suggestion et à la méditation. »
« D'accord, » dit Yuna d'une voix hésitante.
« Quand on utilise le terme d'hypnose, on parle en fait de l'hypnose ericksonienne, où une personne en hypnotise une autre dans un but précis.
Comme ?
Comme susciter des hallucinations négatives.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le plus souvent, ça consiste à inhiber l'expérience consciente de la douleur.
Mais la douleur est toujours là.
Cela dépend de notre définition de la douleur, répond Eric. Le patient a évidemment des réactions physiologiques aux stimulations de douleur, mais il n'éprouve pas de douleur. Il est même possible de pratiquer une intervention chirurgicale sous hypnose clinique.
Yuna écrit quelque chose dans son carnet.
D'un point de vue purement neurophysiologique, poursuit Eric, le cerveau se comporte d'une façon particulière sous hypnose. Certaines parties du cerveau, dont on se sert rarement, sont tout à coup activées. Bien qu'une personne hypnotisée se trouve dans un état de relaxation profonde et semble endormie, si l'on effectue un électroencéphalogramme, l'activité cérébrale montre une personne réveillée et attentive.
« Le garçon ouvre les yeux de temps en temps, » dit Yuna en regardant par la vitre. « J'ai vu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?»«
Avec le patient ?»«
Oui, quand vous l'hypnotiserez. »
Lors d'une hypnose dynamique, c'est-à-dire dans un contexte thérapeutique, le patient se partage presque systématiquement en un soi observateur et un ou plusieurs soi sensibles et actifs.
Il se voit comme au théâtre.
Oui.
Vous allez lui dire quoi?
Il faut avant tout qu'il se sente en sécurité. Il a vécu des choses terribles, donc je commencerai par lui expliquer mes intentions et ensuite je passerai à la relaxation. Je parlerai calmement de ses paupières qui sont de plus en plus lourdes, de son envie de fermer les yeux. Je lui dirai de respirer profondément, je parcourrai son corps du haut vers le bas, puis je remonterai progressivement.
Eric attend que Yuna ait fini d'écrire.
L'étape suivante s'appelle l'induction. J'introduis comme des ordres dissimulés dans mes propos et j'amène le patient à s'imaginer des endroits et des événements simples. Je suggère une promenade dans ses pensées, de plus en plus lointaine, jusqu'à ce qu'il abandonne presque tout besoin de contrôler la situation. C'est un peu comme quand on lit un livre et qu'il est tellement palpitant qu'on n'est plus conscient d'être en train de lire.
Je comprends.
À la fin de l'induction, quand on soulève la main du patient de cette façon et qu'on la relâche, elle doit rester levée, en état de catalepsie. Après l'induction, je compte à rebours pour approfondir davantage l'hypnose. Moi, je compte. D'autres laissent le patient visualiser une échelle de gris pour dissoudre les limites de la pensée. Ce qui se produit concrètement n'est autre que la désactivation de la peur ou de la pensée critique qui bloque certains souvenirs.
Vous arriverez à l'hypnotiser
s'il ne résiste pas.
Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas? Qu'est-ce qui se passerait s'il résistait?
Eric ne répond pas. Il observe le garçon à travers la vitre, tente de déchiffrer son visage, de déterminer sa réceptivité.
C'est difficile de dire ce que j'obtiendrai de lui. Ça peut être plus ou moins pertinent.
Je n'attends pas une déposition de témoin. Il me faut seulement un indice,
un signalement, une piste.
Donc la seule chose que je dois rechercher, c'est la personne qui leur a infligé ça.
Un nom ou un endroit, ce serait bien, ou tout autre indice.
Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça va se dérouler, dit Eric en prenant une profonde inspiration.
Yona le suit à l'intérieur, s'installe sur une chaise dans un coin, enlève ses chaussures et s'appuie sur le dossier.
Eric baisse la lumière, approche un tabouret en acier et s'installe près du lit.
Il commence par expliquer avec soin au garçon qu'il a l'intention de l'hypnotiser pour l'aider à comprendre ce qui s'est passé la veille.
« Joseph, je serai assis là tout le temps, » dit Eric calmement.
« Il n'y a absolument rien à craindre. Tu peux te sentir en totale sécurité. Je suis là pour toi, tu n'es pas obligé de dire ce que tu n'as pas envie de dire, et tu peux toi-même interrompre l'hypnose dès que tu le souhaites. »
C'est à cet instant seulement qu'Eric commence à réaliser à quel point le processus lui a manqué. Son cœur bat avec force. Il doit tenter de maîtriser son enthousiasme. Il ne doit pas forcer le déroulement du processus, ne doit pas le presser. Il doit y instiller du calme, le laisser ralentir au besoin et prendre son propre rythme.